Ne partez pas tout de suite. C'est écrit tout en haut de la page, en grosses lettres majuscules, légèrement tremblées, comme cela arrive quand on écrit dans les trains. Le point d'exclamation est très décalé. Ça se trouve vers le milieu du carnet, sur une page de droite. Sur la page de gauche, il n'y a rien. Sur la page de droite, sur la page suivante, il y a un numéro de téléphone écrit légèrement en biais, avec la même encre noire et en chiffres très gros, d'un centimètre environ. Là encore, rien sur la page de gauche. C'est la dernière chose écrite. Après, les pages à petits carreaux défilent sans plus aucun signe. Ces deux dernières choses semblent avoir été écrites juste avant la descente du train. Peut-être sont-elles en rapport étroit avec la perte ou l'abandon du carnet. Elles semblent l'une et l'autre destinées à être montrées ou lues de loin et ne ressemblent en rien aux notes personnelles, nombreuses et d'écriture variée que l'on trouve dans les pages qui précèdent. Le carnet est bleu. C'est un carnet de 96 pages, de format moyen, 11 par 17 cm, qui tient dans la poche. Il a été retrouvé derrière une tablette de siège du TGV Paris-Nice. D'une manière générale, l'ensemble de ce qui est écrit depuis la première page jusqu'à cet énigmatique numéro de téléphone n'est pas facilement identifiable à première vue. L'écriture est petite, serrée et souvent fragmentée, de telle sorte que la plupart du temps, les mots apparaissent écrits en plusieurs morceaux. En haut de la page de droite, qui précède « Ne partez pas tout de suite », il y a un autre numéro de téléphone, écrit avec la même encre noire, en chiffres légèrement tremblés aussi, mais d'une taille normale, et qui ne retiendrait pas l'attention s'il n'était précédé de deux mots, toujours à l'encre noire, mais avec des caractères très petits, mal formés. L'ensemble donne cette phrase curieuse. Elle écrit et suit le numéro de téléphone. Le tremblement de l'écriture associe presque naturellement cette phrase à ce qui suit. Pourquoi cette phrase est-elle écrite au présent? Et dans quelles circonstances est-on amené à écrire une telle chose, sous la forme du commentaire en direct? Où se trouve la personne dont il est question? S'agit-il bien d'une personne et non d'une créature imaginaire, d'une machine électronique ou d'un relevé de jeu radiophonique? Ici, la page de gauche est presque entièrement écrite. D'une écriture malaisée, précipitée, dans l'ensemble illisible. On a saisi quelques mots, et notamment ce bout de phrase vers le haut. Je regardais le jeu de celui qui était devant elle, pour qu'elle puisse à son tour me regarder sans être gênée. Celui d'en face croyait que je m'intéressais au jeu de son partenaire. Puis cet autre, sur son visage, cette expression, peut-être la même sur le mien. C'était un homme qu'appartenait le carnet. Et cette femme, à ce que l'on comprend, n'était ni sa voisine ni une connaissance, mais une inconnue avec qui, dans le train sans doute, quelque chose de secret était en train de se produire. La page de gauche termine un ensemble écrit, semble-t-il, d'une seule traite, qui couvre en tout trois pages, puis, toujours en revenant en arrière, on trouve des suites d'indications, des notes diverses séparées par des traits, le tout d'une écriture différente, tracée avec un autre stylo. Bien avant encore, il y a d'autres textes, d'une page et demie ou deux, que séparent d'autres notes, des numéros de téléphone, des phrases, des adresses notées hâtivement. Certains passages, plus facilement lisibles, permettent de se familiariser peu à peu avec le dessin des caractères. De plus, même si leur contenu semble assez éloigné de celui des dernières pages, un même fil conducteur y mène, que l'on devine dans l'emploi de certaines tournures particulières, dans une certaine façon de former les phrases, et dans le choix et l'insistance portée sur certains mots. On trouve ceci vers le début du carnet, écrit au crayon de façon tout à fait claire. Acheter jusqu'à ses plus mauvais disques, souvenir de ses pires moments, acquiescer sans réserve, ni client ni maquereau de ce désastre inconsolable. Sans que l'on puisse dire s'il s'agit d'une pensée personnelle ou d'un effet de style. Juste en dessous, le titre d'une chanson de Tina Turner, Foreign Affair, entouré et assorti de plusieurs points d'exclamation. Plus loin, certaines indications renvoient à des textes déjà écrits, semble-t-il, ou en préparation. Cette ambiguïté d'écriture est omniprésente. On lit plus loin, occupant le haut d'une page et sans rapport avec le reste. Son épaule si proche, elle tout à côté. C'était si peu, et c'était plus que je n'en ai jamais espéré. S'entendre assez pour n'avoir rien à se dire, n'y avoir plus à se connaître et s'en tenir là. Presque seul face à l'écran, nous plaisantions d'être assis côte à côte, un après-midi et du temps devant nous. Quand le dos de ma main, reprenant mes lunettes qu'elle m'avait empruntées pour jouer, a effleuré son pullover, la rondeur douce de son sein à peine pressentie m'a saisi la nuque. J'ai ri longtemps après du bonheur de si peu, nous avions tant de temps. Et sur la page suivante, je voudrais tant n'être rien pour vous, et toujours vous savoir vivre sans y être pour quoi que ce soit. Si je devais y être pour quelque chose serait sans doute en moins de vous. Qu'en aucune façon ne soit troublée l'élégance de votre insouciance à mon égard. Soyez celle si soucieuse de rien. D'autres pages encore, et puis on peut lire sous une forme aphoristique cette assertion sans doute très personnelle. S'habituer au pire exige qu'on le fréquente assidûment. Le pire n'est pas la dernière extrémité. Suit une liste de courses comprenant des achats de planches pour fabriquer des étagères, des vis, 3 ampoules électriques et un radiateur de petit format, 2 références de livres. Avec un peu plus d'habitude, maintenant, on parvient à déchiffrer quelques pages plus loin, un passage entier écrit au crayon et sans trop de ratures. Il y a dans toute volonté déterminée une part au moins égale d'absence de volonté. Celle précisément qui concerne la volonté de ne rien entreprendre, l'abandon d'une négation. Puis viennent les toutes dernières pages du carnet, écrites pendant le voyage, faites de courts paragraphes et de phrases séparées par des points ou des vides, quelquefois reliées par des traits. Maintenant, on peut y lire ceci. Son regard s'est fixé dans la diagonale du mien. Impossible de regarder ailleurs. Mais leur regard à eux. Lentement, son regard, comme vide, comme perdu, s'est déplacé vers mon épaule. Je ne pouvais rien faire contre. Mes yeux allaient à sa rencontre. Eux, en face. L'un me regardait comme on regarde un criminel ou un exhibitionniste. Impossible pour lui qui joue aux cartes avec les autres de détacher ses yeux de moi. L'autre, face à lui et me tournant le dos, semblait prendre part sans le vouloir à ce mouvement d'hypnose. Le voisin de gauche de celui qui me fait face s'est mis lui aussi à me voir, malgré lui. La pesanteur a ralenti leur mouvement. Ils parlent peu, par mots grognés. Mes yeux l'attendaient et elle s'est retournée, donnant sciemment du sens à la lenteur de son mouvement. Confirmation de notre étreinte secrète. Son visage s'est offert en un sourire d'une insoutenable intimité. Accueilli sans la moindre distance, comme couché sur elle dans un lit d'hôtel un matin d'été. Sa poitrine s'est soulevée, elle a fermé ses yeux et expiré doucement, par saccades. Le sang en moi battait comme un ressac qu'elle semblait recevoir. Les yeux replacés dans le vide de la fenêtre du TGV, je ressentais nettement les mouvements brefs de sa poitrine sur la mienne. Ils se sont mis à parler autrement pendant le jeu de cartes. Celui qui me tourne le dos a parlé de l'eau qui dort, dont il faut se méfier. Le regard de son partenaire en face est à nouveau venu me surprendre, associant, comme malgré lui, ce coup d'œil à ce qui venait d'être dit. La vitesse régulière du train, l'absence d'arrêt, le temps nous est offert sans compter. Elle sourit en me voyant écrire. Je regardais le jeu de celui qui était devant elle pour qu'elle puisse à son tour me regarder sans être gênée. Celui d'en face croyait que je m'intéressais au jeu de son partenaire. J'attendais la volupté de ses yeux remontant lentement vers moi depuis le sol. Parfois, nos regards se croisent dans un frisson d'effroi et d'abandon. Leur jeu continue, leur surveillance aussi. Les deux qui me font face n'osent presque plus me regarder. Silence, sont lourds. Je sens leurs pensées naviguer entre nous, se poser sur ma peau, mélangées aux siennes. Son regard s'est fixé rêveusement sur la longue perspective vide de la travée entre les sièges. On approche. Lentement, la tristesse entre nous. Sur son visage, cette expression, peut-être la même sur le mien, l'hébétude d'avant les séparations. Déjà donc, avant, mais déjà après. Elle écrit, premier numéro de téléphone, puis, isolée sur une autre page, ne partez pas tout de suite. Et sur une autre page encore, le deuxième numéro de téléphone. Merci beaucoup. Merci.